Chapitre 32. Il commence à se fatiguer de la mort. Après avoir visité 8 systèmes stellaires en 63 jours, connu chacun 8 fins atroces et 8 résurrections douloureuses, le père capitaine de Soya, le sergent Grégorius, le caporal Key et le lancier Etig en ont assez de la mort et de la régénération. Chaque fois qu'il ressuscite à présent, de Soya se tient nu devant un miroir, regarde sa peau à vif, luisante comme celle d'un écorché vivant, et touche délicatement le cruciforme, tantôt livide et tantôt écarlate, qui fait saillie sous la peau de sa poitrine. Après ses résurrections, durant plusieurs jours, il est comme fou. Ses mains tremblent un peu plus chaque fois. Il entend des voix lointaines. Il est incapable de se concentrer totalement, que son interlocuteur soit un amiral de la Pax, un gouverneur planétaire ou un prêtre paroissial. De Soya commence à s'habiller en prêtre. Il troque son fringant uniforme de père capitaine de la Pax contre la soutane et le col blanc. Il porte un rosaire à sa ceinture cordelette et l'égrène continuellement, comme s'il s'agissait de boules anti-stress. La prière le calme. Elle remet ses pensées en ordre. Le père capitaine de Soya ne rêve plus d'aînée comme si c'était sa fille. Il ne rêve plus du vecteur Renaissance ni de sa sœur Maria, mais d'Armageddon. Dans ses terribles cauchemars, il voit des forêts orbitales en flammes, des mondes embrasés, des rayons de la mort qui balaient des vallées fertiles et ne laissent derrière eux que cadavres et désolation. Après le premier monde du Tétis, il comprend qu'il a mal calculé. 2 années standards pour visiter 200 mondes, avait-il dit dans le système Renaissance, en prévoyant 3 jours pour la résurrection dans chaque système, pour donner l'alerte, puis pour passer dans le système suivant. Mais ça ne marche pas comme ça. Son premier monde est Tocéti Centrale, l'ancienne capitale administrative des provinces reculées du Retz hégémonien. Demeure de dizaines de milliards de personnes à l'époque du Retz, entourée d'une véritable ceinture de cités et d'habitats orbitaux, desservie par les ascenseurs de l'espace, les Distrans, le fleuve Tétis, le Confluent, le Mégatrans et d'autres moyens encore, centre de la mégasphère de l'infoplan, siège de la maison du gouvernement, site du lynchage de Mayna Gladstone par la foule en furie, après la destruction des Distrans du Retz par les vaisseaux de la Force placés sous son commandement, TC Carré a été frappé de plein fouet par la chute. Les immeubles flottants se sont écrasés au sol lorsque le réseau d'énergie s'est écroulé. Les spires urbaines, certaines atteignant plusieurs centaines d'étages, n'étaient desservies que par Distrans, sans le moindre ascenseur ou escalier. Des dizaines de milliers d'êtres humains y sont morts de faim ou se sont jetés par la fenêtre avant d'avoir pu être sauvés par les glisseurs. Ce monde n'avait pas de production agricole propre. Il importait sa nourriture d'un millier de mondes différents par l'intermédiaire des Distrans planétaires et de grands portails orbitaux. Les émeutes de la Grande Famine durèrent 50 années locales sur TC Carré. Quand elles prirent fin, des milliards d'humains avaient reçu la mort des mains d'autres humains, s'ajoutant aux milliards de victimes de la faim. Tocéti Centrale, à l'époque du Retz, était un monde sophistiqué et frivole. Rares étaient les religions qui avaient pu s'y enraciner, à l'exception des plus sybarites et des plus violentes. L'église de l'expiation finale, celle du culte Grichtek, était relativement populaire dans les cercles blasés. Mais durant les siècles de l'expansion hégémonienne, le seul véritable objet du culte sur TC Carré fut le pouvoir, dont la poursuite, la proximité et la conservation servaient de credo à des milliards d'individus. Lorsque ce credo s'écroula, en entraînant dans sa chute des cohortes de victimes, les survivants maudirent, parmi leurs ruines urbaines, tout ce qui pouvait leur rappeler ce pouvoir et s'efforcèrent de retrouver un mode de vie paysan à l'ombre de leur gratte-ciel en ruine. Ils passèrent leurs charrues improvisées dans les anciens parkings, le long des autoroutes ou des pistes d'envol abandonnées, sur les terrains des anciennes galeries marchandes du Confluent. Ils pêchèrent la carpe dans les eaux du Tétis, là où passaient naguère chaque jour des milliers de yachts et barges de plaisance. Tocéti Centrale était mûr pour le christianisme régénéré et le néo-catholicisme. Lorsque les missionnaires de l'Église et la police de la Pax arrivèrent, 60 années standards après la chute, La conversion des quelques milliards de survivants de la planète fut sincère, immédiate et totale. Les hautes spires en ruine, mais toujours blanches, des corporations et du gouvernement du temps du Retz, avaient fini par s'écrouler. Leurs façades de pierre, de verre intelligent et de plastacier s'étaient recyclées en cathédrales massives, érigées par les mains des nouveaux régénérés de Tossetti et remplies chaque jour de la semaine par les fidèles et les âmes reconnaissantes. L'archevêque de Tossetti Central devint l'un des personnages les plus importants et aussi l'un des plus puissants du domaine renaissant, aujourd'hui connu sous le nom d'espace de la Pax. Il rivalisait même en influence avec sa sainteté sur Passem. Ce pouvoir grandissant se heurtait à des limites qui ne pouvaient être franchies sans encourir la fureur papale. L'excommunication de son éminence le cardinal Klaus Cronenberg en l'an de grâce 2978, ou 126 après la chute, aida à définir ses limites. Et TC Carré continue de grandir dans ce cadre. C'est ce que le père capitaine de Soya découvre à son premier saut en provenance de l'espace Renaissance. 2 années, c'est ce qu'ils avaient prévu. Approximativement 600 jours et 200 morts volontaires pour couvrir la totalité des anciens mondes du Tétis. Ses gardes suisses et lui sont sur Tossetti Central pour 8 jours. Le Raphaël pénètre dans le système en émettant tous ses codes automatiques. Les vaisseaux de la Pax répondent et viennent à sa rencontre moins de 14 heures plus tard. Il leur faut encore 8 heures pour décélérer et s'insérer dans la circulation orbitale de TC carré, plus 4 pour transférer les corps dans une crèche de résurrection officielle de la capitale planétaire de Saint-Paul. C'est donc un jour entier qui est ainsi perdu. Au bout de 3 jours de résurrection dans les normes, plus 1 jour de repos forcé, De Soya a une entrevue avec l'archevêquesse de TC carré, son Excellence Achila Silvaski, et doit se soumettre à une nouvelle série de formalités qui dure 1 journée de plus. De Soya est porteur d'un disque papal qui représente une délégation d'autorité pratiquement jamais vue, et l'entourage de l'archevêquesse est comme une meute de chiens qui flairent ce pouvoir pour essayer d'en déterminer les raisons et d'en projeter les conséquences. En l'espace de quelques heures, De Soya a un aperçu des intrigues et des complexités de cette lutte pour le pouvoir provincial. L'archevêquesse Silvaski ne peut espérer devenir cardinal. En effet, à la suite de l'excommunication de Cronenberg, aucun chef spirituel de TC carré ne peut accéder à un rang plus élevé que celui d'archevêque sans être d'abord transféré sur Passem et au Vatican. Son pouvoir dans ce secteur de la Pax dépasse cependant largement celui des cardinaux, et les retombées temporelles de ce pouvoir maintiennent à leur place les amiraux de la flotte de la Pax. Elle s'est donnée pour tâche d'identifier la nature de l'autorité papale dont est investi De Soya et de la neutraliser dans l'optique de ses propres fins. Mais le père capitaine De Soya se fiche pas mal de la parano de l'archevêquesse touchant à la politique de l'Église sur TC carré. Il ne se soucie que d'une seule chose, c'est de bloquer les issues des portails d'Istrance locaux. Le 5e jour suivant sa translation dans l'espace de Tossetti, il parcourt la distance de 500 mètres qui sépare du fleuve la cathédrale de Saint-Paul et le palais de l'archevêquesse. Ici, le fleuve n'est qu'un affluent mineur aménagé en canal qui traverse la cité, mais qui faisait jadis partie du Tétis. Les énormes portails d'Istrance sont toujours debout, car il ne faudrait pas moins, selon les experts, qu'une explosion thermonucléaire pour les mettre à bas. L'Église les a fait recouvrir depuis longtemps de ses bannières, mais ils sont particulièrement proches l'un de l'autre. Le Tétis ne méandrait que sur 2 kilomètres d'un portail à l'autre, entre la maison du gouvernement et les jardins aménagés du parc Audin. Le père capitaine de Soya, ses 3 gardes du corps et les dizaines de troupiers de la Pax qui accompagnent l'archevêquesse Silvaski dans tous ses déplacements, se tiennent actuellement sous le premier portail, sur l'herbe de la rive, d'où ils peuvent admirer de loin une tapisserie de 30 mètres de haut sur le second portail, illustrant le martyr de Saint Paul, clairement visible derrière les pêchers en fleurs des jardins épiscopaux. Dans la mesure où cette section de l'ex-Tétis se trouve à présent dans les jardins privés de son Excellence, il y a des gardes postés sur toute la longueur du canal et aux extrémités de tous les ponts qui le traversent. Bien qu'il n'y ait aucun dispositif spécial de surveillance autour des anciens portails, les officiers de la garde du palais assurent à De Soya qu'aucun vaisseau ni engin n'a franchi ces portails, ni était vu en train de remonter les rives du canal. De Soya insiste pour que des sentinelles gardent les portails en permanence. Il ordonne que des caméras en assurent l'observation 29 heures sur 29 et que des capteurs, des alarmes et des détecteurs à déclenchement par contact soient disposés tout autour. Les responsables de la Pax confèrent avec leur archevêquesse, puis se plient avec réticence à ces demandes qu'ils considèrent comme une entorse à leur souveraineté. De Soya désespère de voir un jour cesser toutes ces tracasseries de politique locale. Le sixième jour, le caporal Ki tombe victime d'une mystérieuse fièvre et doit être hospitalisé. De Soya pense que c'est le résultat de leur résurrection. Chacun d'eux a ressenti à sa manière le traumatisme et les effets mineurs de ces résurrections à répétition. Le septième jour, Ki est de nouveau sur pied et implore le père capitaine de lui faire quitter l'hôpital et cette planète, mais l'archevêquesse insiste pour que De Soya participe à la célébration d'une messe dans la soirée en l'honneur de sa sainteté, le pape Jules. Il peut difficilement refuser. Il se retrouve donc, le soir venu, parmi les sceptres et les Monsignori, sous l'emblème géant de sa sainteté aux trois couronnes et aux clés ansées, qui apparaît aussi sur le disque papal que De Soya porte à présent autour du cou, parmi les vapeurs d'encens, les mitres blanches et les clochettes, entourées du chant solennel de la chorale de 600 enfants. Le simple prêtre guerrier de Madre de Dios et l'élégante archevêquesse célèbrent côte à côte les mystères de la crucifixion et de la résurrection. Le sergent Grégorius, ce soir-là, reçoit la communion des mains de De Soya, comme il l'a fait chaque jour depuis le début de leur quête, mais il le fait en même temps que quelques douzaines d'autres, choisis comme lui pour recevoir l'hôte, secret du succès de leur immortalité du cruciforme dans cette vie, pendant que 3000 fidèles en prière les regardent dans la pénombre de la cathédrale. Le huitième jour, il quitte le système. Pour la première fois, le père capitaine De Soya accueille la mort comme un moyen d'évasion. Ils sont ressuscités dans une crèche d'Evansgate, un monde jadis misérable, terraformé avec de grands arbres et un environnement confortable à l'époque du Retz, largement retombé aujourd'hui sous l'emprise des boues bouillonnantes, des marais pestilentiels, de l'atmosphère irrespirable et des sources de radiation torride de Vega Prime dans le ciel. L'ordinateur aveugle du Raphaël a choisi cette série de mondes du vieux fleuve Tétis dans l'ordre qui lui a paru le plus efficace en l'absence de toute clé sur le vecteur Renaissance, indiquant la destination des portails. La chose qui retient l'attention du père capitaine, cependant, c'est qu'il se rapproche de plus en plus du système de l'ancienne Terre, à moins de 12 années-lumière de TC carré et un peu plus de 8 actuellement de Heaven's Gate. Il se dit qu'il aimerait bien aller voir le système de l'ancienne Terre, même en l'absence de cette planète, malgré le fait que Mars et les autres mondes, Lune et astéroïdes habités, soient devenus des provinces arriérées sans plus d'intérêt pour la Pax que n'en avait un monde comme Madre de Dios. Le Tétis, cependant, n'a jamais coulé dans le système de l'ancienne Terre, et De Soya doit ravaler sa curiosité en se disant que les prochains mondes qu'il visitera seront encore plus proches de la planète mère. Heaven's Gate leur fait perdre également 8 jours, mais ce n'est pas pour des questions de politique intérieure de l'Église. Il y a une petite garnison de la Pax en orbite autour de la planète, et elle descend rarement à la surface. Heaven's Gate est un monde en ruine. Sa population, qui atteignait jadis 400 millions d'âmes, est réduite aujourd'hui à une dizaine de prospecteurs à moitié fous qui errent dans ces plaines des boues depuis 274 ans, depuis la chute. Les essaims d'Extro ont fondu sur ce monde végien avant même que Gladstone ait ordonné la destruction des distances. Ils ont scorifié la sphère de confinement orbitale raser la capitale de Plaine des Baux, avec ses superbes jardins-esplanades, bombarder au plasma les stations de production d'atmosphère qu'il avait fallu des siècles pour mettre en place, et dévaster l'ensemble de la planète avant que la perte des liaisons d'Istrans ne fasse en sorte que plus rien ne repousse sur cette terre salée. Aujourd'hui, la petite garnison de la Pax surveille la planète en raison des matières premières qu'elle est censée contenir encore, mais elle n'a pas à y descendre. Il faut que De Soya insiste pour que le commandant de la garnison, le major Lim, accepte de former une expédition. Le cinquième jour après l'entrée du Raphaël dans le système végien, De Soya, Grégorius, Key, Rettig, un certain lieutenant Bristol et une douzaine d'hommes de la Pax, équipés de combinaisons pressurisées, prennent un vaisseau de descente pour se rendre à l'endroit où, jadis, coulait le fleuve Tétis. Mais il n'y a plus ici le moindre portail.
« Je croyais qu'il était impossible de les détruire, » s'étonne De Soya. « Le technocentre les a conçus de manière à ce qu'ils résistent à tout, et on ne connaît aucun exemple de destruction d'un relais d'Istrans.
« Vous voyez bien qu'il n'y a rien ici !»
fait le lieutenant Bristol. Il ordonne à ses hommes de retourner en orbite. De Soya annule son ordre. De par l'autorité de son disque papal, il exige qu'une recherche poussée soit opérée par tous les moyens de détection disponibles. Il découvre les portails à 16 km de là, ensevelis sous une centaine de mètres d'épaisseur de boue.
« Voilà qui résout votre mystère !» déclare le major Lim sur faisceau étroit. Les attaques des extros ou les glissements de terrain qui en ont résulté ont rendu les portails et le fleuve totalement inutilisables. Ce monde a subi un cataclysme dont il ne se relèvera jamais.
C'est possible, mais j'ordonne que les distances soient entièrement dégagées et que des bulles environnementales temporaires soient érigées autour d'eux afin d'assurer la survie de quiconque voudrait les utiliser. De plus, chaque portail devra être gardé jour et nuit.
« Bon sang de croix, vous avez perdu la raison !»
explose le major Lim. Puis, se souvenant du disque papal, il ajoute
« Père capitaine !»«
Pas encore !» réplique De Soya, furibond face à la caméra. « Je vous donne 72 heures pour exécuter mes ordres, major. Vous serez de corvée pendant les 3 prochaines années à la surface de cette planète !»
Il faut 70 heures pour procéder aux excavations, assembler les dômes et poster les sentinelles. Quelqu'un qui voyagerait sur le fleuve Tétis et franchirait l'un de ses portails ne trouverait pas d'eau en émergeant de ce côté, naturellement. Il ne trouverait que de la boue, une atmosphère délétère, irrespirable, et des soldats en armure de combat. De Soya tombe à genoux à bord du Raphaël, le dernier soir, en orbite autour d'Evans Gate, et prie pour qu'Ené n'ait pas déjà franchi l'un de ses portails. Ses os blanchis n'ont pas été retrouvés parmi la boue et le soufre, mais l'officier du génie qui s'occupait de l'excavation a dit à De Soya que le sol était si toxique ici, à l'état naturel, que le squelette de l'enfant aurait probablement été déjà entièrement rongé par les acides. De Soya ne croit pas à cette hypothèse. Le 9e jour, il se translate hors du système après avoir averti le major Lim de ne pas relâcher la surveillance de ses gardes, de maintenir les dômes sous atmosphère respirable et de surveiller sa langue à l'avenir, au cas où il aurait encore de la visite. Personne ne les attend pour les ressusciter dans le 3e système où le Raphaël les conduit. Le vaisseau Archange pénètre dans le système NGCES 2629 avec sa cargaison de cadavres et ses signaux automatiques diffusant les codes de la Pax, mais il n'y a aucune réponse. NGCES 2629 comporte 8 planètes. Une seule d'entre elles, cependant, connue sous le nom prosaïque de NGCES 2629-4BIV, est compatible avec la vie. D'après les archives auxquelles le Raphaël a encore accès, il est probable que l'hégémonie et le centre aient consenti l'effort et la dépense de prolonger jusqu'ici le fleuve Tétis pour des raisons uniquement subjectives et esthétiques. La planète n'a jamais été sérieusement colonisée ou terraformée, à l'exception d'un ensemencement aveugle à l'ADN au premier temps de l'égir. Il semble que ce monde ait fait partie du circuit du fleuve Tétis uniquement dans des buts touristiques et pour l'observation de la vie animale. Ce qui ne signifie nullement que la planète soit inhabitée aujourd'hui, tandis que le Raphaël met ses capteurs en action sur son orbite d'attente, pour procéder à la résurrection automatique de ses passagers. Dans la mesure où les ressources limitées de ses ordinateurs quasi IA lui permettent de comprendre et de reconstituer les faits, le Raphaël établit que la population réduite de NGCES 2629-4BIV est constituée des descendants des équipes scientifiques de biologistes, zoologues et techniciens de survie pris au piège, en même temps que quelques touristes, au moment de la chute et retournés à l'état sauvage. En dépit d'une natalité prodigieuse au cours des 3 siècles, ou presque, qui se sont écoulés depuis, seuls quelques milliers d'humains peuplent à présent les jungles et les hauts plateaux de ce monde primitif, qu'ils partagent avec les bêtes féroces à ADN ensemencées à l'époque de l'Égyre et capables de dévorer des humains, ce qu'elles ne se privent pas de faire à qui mieux mieux. Le Raphaël, dans sa simple quête des portails d'Istrance, va jusqu'au bout de ses limites. Les archives disponibles sur le RETS dans ses mémoires indiquent seulement qu'ils sont disposés à intervalles variables le long d'un fleuve de 6000 km dans l'hémisphère nord. Le Raphaël modifie son orbite pour gagner un point plus ou moins synchrone au-dessus du continent massif qui domine cet hémisphère et commence à photographier le fleuve et à le cartographier au radar. Malheureusement, il y a 3 cours d'eau d'importance sur ce continent, 2 qui coulent vers l'est et 1 vers l'ouest, et le Raphaël, incapable d'établir une hiérarchie dans les probabilités, décide de les cartographier tous les 3, ce qui implique l'analyse de plus de 20 000 km de terrain. Quand les cœurs des 4 hommes recommencent à battre au bout du 3e jour du cycle de résurrection, le Raphaël éprouve une sorte d'équivalent silicium du soulagement. Écoutant la description par l'ordinateur des tâches à venir, tout nu devant le miroir de sa minuscule cabine, Federico de Soia ne ressent pour sa part aucun soulagement. En réalité, il aurait plutôt envie de pleurer. Il pense à la mère capitaine Stone, à la mère capitaine Boulez et au capitaine Hearn, à présent dans la zone tampon du Grand Mur, peut-être en train d'engager de féroces combats avec les extros. Il leur envie la simplicité honnête de leur tâche. Après avoir conféré avec le sergent Gregorius et ses 2 hommes, De Soia prend connaissance des données informatiques et rejette aussitôt le cours d'eau qui coule vers l'ouest comme étant trop peu pittoresque pour le Tétis, car il traverse trop de canyons profonds à l'écart des jungles et des marais grouillants de vie animale. Il rejette également le 2e fleuve, qui comporte trop de chutes et de rapides d'accès mouvementés. Il fait donc établir par radar le relevé sommaire du cours d'eau le plus long, au parcours plus droit et plus paisible. La carte mettra en relief des dizaines, peut-être des centaines de formations naturelles susceptibles de ressembler à des portails d'Istrance. Parois rocheuses, cascades, ponts naturels, rapides parsemés de gros blocs. Il ne faudra que quelques heures ensuite, à l'œil humain, pour les différencier. Le 5e jour, les portails sont localisés. Ils sont anormalement éloignés l'un de l'autre, mais leur caractère d'artefact ne fait aucun doute. De Soia va les inspecter en personne à bord du vaisseau de descente. Il laisse le caporal Key avec le Raphaël pour le cas où une urgence se présenterait. C'est le scénario que le père capitaine redoute le plus. Il n'a aucun moyen de savoir si la fillette est passée ici, avec ou sans son vaisseau. La distance entre les 2 portails morts est la plus longue qu'ils aient jamais rencontrée, près de 200 kilomètres. Ils ont beau survoler la jungle et le fleuve de long en large, il leur est impossible de dire si quelqu'un est passé par ici récemment. Il n'y a aucun témoin à interroger, aucune sentinelle de la Pax à laisser en faction. Ils se posent sur une petite île en vue du portail en amont et tiennent un conciliabule.
Il y a 3 semaines standard que leur vaisseau a franchi le relais distance du vecteur Renaissance, déclare Gregorius.
La cabine du vaisseau de descente est exiguë et purement utilitaire. Ils sont sanglés dans leur siège. Les armures de combat de Rettig et du sergent sont suspendues dans les casiers AEV comme des pots métalliques de rechange.
S'ils sont venus sur un monde pareil, estime Rettig, ils ont probablement utilisé leur vaisseau. Ils n'ont aucune raison de suivre le Tétis.
C'est vrai, fait De Soia. Mais il y a des chances pour que leur vaisseau ait été endommagé. Oui,
reconnaît le sergent.
Mais endommagé à quel point? Au point de ne plus pouvoir voler ou de s'auto-réparer? Ils sont peut-être allés effectuer des réparations sur une base extra. N'oublions pas que nous ne sommes pas loin des confins.
La fillette a peut-être envoyé le vaisseau quelque part pour continuer à pied jusqu'au portail suivant, suggère Rettig.
En supposant que ces autres portails fonctionnent,
murmure De Soya d'une voix lasse.
Et que celui du vecteur Renaissance ne se soit pas ouvert sur un simple coup de chance.
Grégorius pose ses deux grosses mains à plat sur ses genoux.
C'est vrai,
dit-il.
Tout cela est ridicule. Trouver une aiguille dans une botte de foin, comme on disait jadis. Serait un jeu d'enfant comparé à ce que nous faisons.
Le père capitaine De Soya regarde par le hublot du vaisseau de descente. Les hautes fougères s'agitent sous la brise silencieuse.
J'ai le pressentiment qu'elle descend le vieux fleuve, dit-il. Je pense qu'elle utilise les portails. J'ignore comment elle fait. Peut-être avec l'engin volant de la personne qui l'a aidé à s'échapper de la vallée des tombeaux du temps. Peut-être avec un radeau gonflable ou un bateau volé. Mais je suis sûr qu'elle est sur le Tétis.
Que pouvons-nous faire ici? Demande Rettig. Si elle est déjà passée, nous arrivons trop tard. Si elle n'est pas encore arrivée, cela signifie que nous pourrions l'attendre toute l'éternité. Il nous faudrait une centaine de vaisseaux archanges pour ratisser chacun de ces mondes et y laisser des troupes.
De Soya hoche la tête.
Durant les heures qu'il consacre à la prière et à la méditation, il se dit souvent que sa tâche serait beaucoup plus simple si les courriers archanges étaient de simples vaisseaux robots qui se translateraient dans tous les systèmes de la Pax, émettraient le code prioritaire du disque papal, lanceraient le dispositif de recherche et gagneraient le système suivant sans même avoir eu besoin de décélérer. Mais à sa connaissance, la Pax ne fabrique aucun vaisseau robot. La haine de l'Église pour les IA et son désir de ne dépendre que des contacts humains le lui interdisent. Pour autant qu'il sache, il n'existe que trois vaisseaux courriers de la classe Archange. Le Michel, le Gabriel, qui lui a apporté son message au début, et son Raphaël. Dans le système Renaissance, il voulait faire participer l'autre vaisseau à la quête, mais le Michel avait une mission pressante à accomplir pour le Vatican. Intellectuellement parlant, De Soya comprenait très bien que cette quête était son affaire personnelle. Mais ils viennent de passer près de 3 semaines à explorer 2 mondes, alors qu'un archange peut alerter 200 systèmes en moins de 10 jours standard. À ce train-là, il faudra à De Soya et au Raphaël 4 ou 5 années standard pour faire la même chose. Le père capitaine aurait presque envie d'en rire s'il n'était pas si épuisé.
Il y a leur vaisseau ?
Dit-il d'une voix légère.
S'ils continuent sans lui, ils n'ont qu'une seule alternative. L'envoyer quelque part tout seul, ou le laisser derrière eux sur l'un des mondes du Tétis.
Vous en parlez comme s'ils étaient plusieurs, père capitaine,
murmure Grégorius.
En êtes-vous certain?
On l'a aidé à nous échapper sur Hyperion. Ils sont plusieurs.
Il s'agit peut-être de tout un commandement extra. Intervint Rettig. Supposons qu'ils soient en train de regagner leur essaim. Ils ont pu laisser la fillette sur l'un de ces mondes, ou encore l'emmener avec eux.
De Soya lève la main pour mettre un terme à ces spéculations. Ce sont des éventualités qu'ils ont déjà évoquées maintes et maintes fois. Je suis persuadé que leur vaisseau a été endommagé, dit-il. Retrouvons-le et il nous conduira peut-être à la fillette.
Grégorius pointe l'index en direction de la jungle, au-dessus de laquelle la pluie tombe.
Nous avons déjà survolé tout ce secteur du fleuve entre les deux portails. Il n'y a pas la moindre trace d'un vaisseau. Quand nous arriverons au prochain système de la Pax, nous pourrons envoyer une garnison ici pour monter la garde autour des portails.
Je sais,
fait le père capitaine De Soya.
Mais ces hommes auront un déficit de temps de 8 ou 9 mois.
Il regarde la pluie qui ruisselle sur le pare-brise et les hublots.
Nous allons continuer nos recherches dans le fleuve, dit-il.
Hein ?
Fait le lancier Rettig.
Si vous aviez à laisser derrière vous un vaisseau avarié, Où le cacheriez-vous ?
Les deux gardes suisses regardent leur commandant sans comprendre. De Soya s'aperçoit que leurs mains tremblent. Les résurrections répétées les affectent aussi.
Nous balayerons le fleuve et la plus grande partie possible de la jungle au radar pénétrant, leur dit-il.
Cela va prendre encore un jour au moins,
protesterait Tig. De Soya hoche la tête.
Nous demanderons au caporal Key d'utiliser le radar pénétrant du Raphaël pour explorer la jungle sur un territoire de 200 km de chaque côté du fleuve. Pendant ce temps, avec le vaisseau de descente, nous examinerons le lit du cours d'eau. Notre radar de bord est moins performant, mais nous sommes plus près et nous aurons moins à couvrir.
Les deux hommes, épuisés, ne peuvent que hocher la tête en signe de soumission. Ils trouvent quelque chose à leur deuxième balayage du fleuve. L'objet est en métal, très grand, et dans un trou profond à quelques kilomètres seulement en aval du premier portail. Le vaisseau de descente fait du surplace pendant que De Soya envoie un message sur faisceau étroit au Raphaël.
Caporal, nous allons explorer cet objet. Je veux que vous soyez prêt à le détruire dans les 3 secondes si je vous en donne l'ordre, mais seulement dans ce cas.
Bien reçu, répond Key.
De Soya maintient le vaisseau de descente en vol stationnaire pendant que Gregorius et Rettig revêtent leur armure, préparent leur équipement spécial et se postent dans le sas ouvert.
Allez-y,
leur dit De Soya. Le sergent Gregorius se laisse tomber du sas. Le système EM de sa combinaison s'enclenche juste avant que l'homme en armure touche l'eau. Le sergent et le lancier tournent au-dessus de la surface, leurs armes braquées.
Radar pénétrant verrouillé en position tactique,
annonce Gregorius sur faisceau étroit.
Liaison vidéo établie,
confirme De Soya de son fauteuil de commandement.
Commencez la plongée.
Les deux hommes se laissent tomber, crèvent la surface et disparaissent sous l'eau. De Soya incline son vaisseau de manière à voir ce qui se passe à travers la bulle du hublot. Le fleuve a une coloration vert foncé, mais 2 puissants projecteurs diffusent leur lumière par en dessous.
Environ 8 mètres de profondeur, fait le père capitaine.
Je l'aperçois,
déclare le sergent. De Soya lève la tête vers le moniteur. Il voit la vase qui remue, un poisson à plusieurs ouïes qui se dépêche de quitter la zone éclairée, une coque de métal incurvée.
Il y a une écoutillon à sas ouvert,
annonce Gregorius.
L'engin est presque entièrement dans la vase, mais la taille correspond à ce que nous cherchons. Je vais entrer. Rettig restera dehors.
De Soya voudrait lui souhaiter bonne chance, mais il garde le silence. Ils se connaissent depuis assez longtemps pour savoir ce qui est approprié ou non. Il redresse l'engin et prépare le canon à plasma rudimentaire qui constitue le seul armement du vaisseau de descente. La liaison vidéo est interrompue dès que Gregorius entre dans le sas.
1 minute s'écoule, puis 2.
Au bout de 2 autres minutes, De Soya commence à s'agiter nerveusement dans son fauteuil de commandement. Il s'attend presque à voir le vaisseau spatial bondir hors de l'eau et prendre son essor comme un gibier apeuré.
Lancier, appelle-t-il.
Oui, père capitaine, fait la voix de Rettig.
Vous ne recevez rien du sergent?
Non, père capitaine. La coque ne laisse pas passer la bande étroite. J'attends encore 5 minutes et... Attendez, j'aperçois quelque chose.
De Soya voit aussi ce que c'est. L'image vidéo du lancier est sombre, mais il distingue le casque, les épaules et les bras du sergent qui émergent du sas ouvert. La lampe de casque de Gregorius éclaire la vase et le lit du fleuve. Un instant, la caméra de Rettig est aveuglée.
« Père capitaine,
fait la voix basse de Gregorius, à peine essoufflée.
Ce n'est pas ce que nous cherchons. À mon avis, il s'agit de l'un de ces yachts de plaisance que les riches possédaient à l'époque du Retz et qui pouvait aussi bien flotter que se déplacer sous l'eau. »
De Soya laisse échapper l'air qu'il retenait dans ses poumons.
« Qu'est-il arrivé à ce vaisseau, sergent ?
Demande-t-il. L'image en armure lève le pouce à l'adresse de Rettig. Les deux hommes remontent vers la surface.
Je pense qu'ils se sont sabordés, père capitaine,
fait Gregorius.
Il y a au moins 10 squelettes à bord, peut-être 12, dont 2 enfants. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est un engin conçu pour flotter ou pour aller sous l'eau. Impossible que tous les sabords se soient ouverts par accident.
De Soya observe par le hublot les deux silhouettes en armure de combat qui crèvent, ruisselantes, la surface de l'eau, puis s'élèvent à 5 mètres où elles demeurent en vol stationnaire.
« À mon avis, continue Grégorius, ils se sont laissés prendre au piège par la chute sur cette planète et ont décidé d'en finir. Ce n'est qu'une conjecture de ma part, mais quelque chose me dit que c'est ainsi que les choses se sont passées.
« Quelque chose me dit que vous avez raison, sergent, » fait De Soya.
« Vous pouvez revenir. »
Il ouvre le sas pour accueillir les deux hommes. Avant leur arrivée, il lève les bras pour prononcer une bénédiction à l'adresse du fleuve, du vaisseau sabordé et des morts qu'il renferme. L'Église n'approuve pas le suicide, mais elle sait que la vie et la mort contiennent bien peu de certitudes réelles. Tout au moins, c'est ce que De Soya a appris, même si l'Église ne le sait pas. Ils laissent derrière eux des détecteurs de mouvement qui enverront des signaux en travers de chacun des portails. Ils ne captureront pas la fillette et ses alliés, mais ils indiqueront aux troupes que De Soya a l'intention de faire venir plus tard, si quelqu'un est passé ici dans l'intervalle. Puis, ils arrachent le vaisseau de descente à NGCES 2629-4BIV, insère l'engin trapu dans la masse disgracieuse du Raphaël, au-dessus du limbe luisant de la planète environnée de nuages, et accélère pour quitter le puits gravifique de manière à se translater dans le système du monde de Barnard, leur prochaine étape. C'est le point le plus proche du système de l'ancienne Terre prévu dans leur itinéraire. 6 années-lumière à peine. Comme il s'agit de l'une des premières colonies interstellaires de l'époque pré-égyrienne, le père capitaine se plaît à penser que cela équivaut à un voyage en arrière dans le temps à l'époque de l'ancienne Terre. Après sa résurrection dans la base de la Pax, à 6 UA du monde de Barnard, cependant, il ne tarde pas à s'apercevoir de la différence. L'étoile de Barnard est une naine rouge qui a environ le 1/5 de la masse du Soleil de type G de l'ancienne Terre et une luminosité 2500 fois moindre. C'est uniquement la proximité du monde de Barnard, à 0,126 UA, et les siècles de terraformation de cette planète qui l'ont placée si haut sur l'échelle d'adaptation de Solmef. Comme De Soya et ses hommes le découvrent bientôt en gagnant la surface avec leur escorte de la Pax, la terraformation a été une réussite totale. Le monde de Barnard a beaucoup souffert de l'invasion extro qui a précédé la chute, et beaucoup moins, relativement parlant, de la chute proprement dite. À l'époque du Retz, ce monde était plein de contradictions plaisantes. Essentiellement agricole, il fournissait à la terre une partie de son blé, de son maïs et de son soja. Mais c'était également une pépinière profondément intellectuelle, avec ses centaines de petites universités réputées dans tout le Retz. Cette étrange combinaison de vie rurale à l'ancienne, évoquant les petites communautés d'Amérique du Nord autour de 1900, et d'activités intellectuelles de pointe, avait attiré ici de nombreux érudits, chercheurs, écrivains et penseurs. Après la chute, le monde de Barnard se consacra davantage à ses activités agricoles que culturelles. Lorsque la Pax arriva en force, une 50aine d'années plus tard, les Barnardiens résistèrent quelque temps contre le christianisme régénéré imposé par le gouvernement de Passem. Barnard était un monde autosuffisant et entendait le rester le plus longtemps possible. Il ne rallia la Pax qu'en l'an de grâce 3061, soit 212 ans après la chute, à la suite d'une sanglante guerre civile entre les catholiques et des bandes de partisans plus ou moins unifiées sous l'appellation de libres croyants. Comme De Soya peut le constater à l'occasion d'un bref tour d'horizon en compagnie de l'archevêque Herbert Stern, les universités, autrefois nombreuses, sont aujourd'hui désertes ou reconverties en séminaires accueillant des jeunes barnardiens des deux sexes. Les bandes de partisans ont quasiment disparu, à l'exception de quelques poches de résistance dans les forêts sauvages et les canyons qui bordent la rivière connue sous le nom de Cour du Dindon. Cette rivière faisait partie du Tétis, et c'est précisément la raison pour laquelle De Soya et ses hommes veulent s'y rendre. Le 5e jour après leur arrivée dans le système, ils se mettent en route, accompagnés d'une escorte de 60 hommes de la Pax et d'une partie du corps d'élite de l'archevêque. Ils ne rencontrent pas le moindre partisan. Ce tronçon du Tétis coule au milieu de larges vallées, entre de hautes falaises de schiste et à travers des forêts de vieilles essences à feuilles caduques transplantées de l'ancienne terre, pour ressortir sur des terres depuis longtemps arables, surtout plantées de maïs, parsemées de grandes fermes blanches avec leurs silos attenants. Cela ne ressemble pas à un paysage de violence, et De Soya ne s'attend guère à en rencontrer ici. Les glisseurs de la PAC survolent la forêt dans tous les sens à la recherche du vaisseau de la fillette, mais ne trouvent rien. Le cours du Dindon n'est pas assez profond pour dissimuler un vaisseau spatial. Le major Andy Ford, l'officier de la PAX chargé des recherches, le décrit comme le meilleur endroit pour faire du canoë-kayak de ce côté-ci de Sugar Creek. Et ce tronçon du Tétis n'avait que quelques kilomètres de long. Le monde de Barnard possède un contrôle de circulation atmosphérique et orbitale moderne. Aucun vaisseau n'a pu quitter cette zone sans se faire détecter. Les fermiers interrogés dans le secteur du cours du Dindon n'ont rien remarqué non plus. Finalement, les forces de la PAX, le conseil diocésain de l'archevêque et les autorités civiles locales s'engagent à maintenir une surveillance quotidienne sur le secteur, malgré la menace constante des libres croyants. Le huitième jour, De Soya et ses hommes prennent congé de plusieurs dizaines d'hommes qu'ils peuvent qualifier de nouveaux amis, se mettent en orbite, se transfèrent à bord d'un vaisseau torche de la PAX et se font escorter vers la station en orbite de l'étoile de Barnard où se trouve leur vaisseau Archange. La dernière chose que De Soya aperçoit de ce monde bucolique, ce sont les deux spires de la cathédrale géante qui s'élèvent de la capitale de Saint-Thomas, autrefois connue sous le nom de Bussard. S'éloignant maintenant de la direction de l'ancienne Terre, Gregorius, Key et Rettig se réveillent dans le système Lacaï 9352, à peu près aussi loin de l'ancienne Terre que Tosetti pouvait l'être des tout premiers vaisseaux d'ensemencement. Ici, les temporisations ne sont de nature ni militaire ni bureaucratique, mais plutôt environnementales. Le monde du Retz, connu à l'époque sous le nom d'Amertume de Sibiatu, puis rebaptisé Grâce Inévitable par sa population actuelle de quelques milliers de colons de la Pax, était alors marginal du point de vue environnemental, et il l'est encore bien plus aujourd'hui. Le fleuve Tétis coulait sous 12 kilomètres de tunnels en perspex, remplis d'une atmosphère respirable et pressurisée. Ces tunnels sont tombés en ruine il y a plus de 2 siècles. L'eau s'est vaporisée sous la pression trop basse, et la faible atmosphère de méthane ammoniaque de la planète se rue pour envahir les berges vides et les cylindres de perspex fendus. De Soya ne comprend pas pourquoi le Retz a inclus ce caillou dans le circuit du Tétis. Il n'y a pas de garnison de la Pax ni de présence sérieuse de l'Église, à part quelques chapelains partageant l'existence des colons ultra-religieux qui tirent difficilement leur subsistance des mines de bolite et des puits de soufre. Mais De Soya et ses hommes réussissent à convaincre certains d'entre eux de les conduire sur l'ancien site du fleuve.
« Si elle est passée par ici, c'est qu'elle est morte »,
fait Gregorius. Il inspecte les énormes portails qui enjambent une droite ligne de perspex fendu et de lits de fleuve asséchés. Le vent de méthane souffle fort et des grains de poussière en mouvement perpétuel essaient de pénétrer à l'intérieur des combinaisons pressurisées. « Pas si elle est restée dans son vaisseau », objecte De Soya en se retournant maladroitement dans sa combinaison pour lever les yeux vers le ciel jaune-orange. Les colons ne se sont peut-être pas aperçus de son départ. C'est trop loin de la colonie. L'homme aux tempes grisonnantes qui les accompagne, au dos courbé malgré sa vieille combinaison râpée, grogne derrière sa visière.
« Zaz est bien vrai, mon père. On a boin trop souvent l'excuse de mirer les étoiles. Zaz est vrai. »
De Soya et ses hommes discutent de la futilité de faire stationner des hommes de la Pax sur un tel monde, pour guetter l'arrivée de la fillette dans les mois et les années à venir.
C'est vrai qu'une mission dans ce trou du cul de nulle part, c'est pas de la tarte, père capitaine, si vous me passez l'expression.
De Soya hoche distraitement la tête. Ils ont installé ici leur dernier détecteur de mouvement. 5 mondes d'explorer sur 200 et ils sont déjà à court de matériel. L'idée d'envoyer des troupes en faction ici lui déplaît aussi, mais il ne voit pas d'autre solution.
Au malaise produit par les résurrections répétées et à la confusion émotionnelle dont il est à présent continuellement la proie, s'ajoutent des doutes et une dépression croissants. Il a l'impression d'être un très vieux chat aveugle que l'on envoie capturer une souris, mais qui se sent incapable de surveiller en même temps les 200 trous par lesquels elle est susceptible de passer. Ce n'est pas la première fois qu'il regrette de ne pas être plutôt dans les confins en train de se battre contre les extros. Comme s'il lisait dans les pensées de son supérieur, Grégorius déclare
« Avez-vous bien étudié l'itinéraire que le Raphaël nous a préparé, père capitaine ?»«
Oui, sergent. Pourquoi ?»«
Certains des endroits où nous sommes censés nous rendre vers la fin du périple ne nous appartiennent plus. Ils sont dans les confins. Le vaisseau veut nous conduire sur des mondes que les extros nous ont enlevés depuis longtemps. »
De Soya hoche la tête d'un air las.
Je sais déjà cela, sergent. Je n'ai pas exclu les zones de combat ni les secteurs défensifs du Grand Mur lorsque j'ai demandé à l'ordinateur du vaisseau de planifier ce voyage.
Et il y a 18 mondes qu'il serait un peu bonbon de visiter,
fait Grégorius en esquissant un sourire,
vu qu'ils appartiennent aujourd'hui aux extros.
De Soya hoche de nouveau la tête, mais sans rien dire. C'est le caporal qui murmure
« Si vous tenez à les voir là-bas commencer, père capitaine, nous serons plus qu'heureux de vous accompagner. »
Le prêtre capitaine relève la tête pour regarder les trois hommes. Il a peut-être un peu trop présumé de leur loyauté et de leur présence à ses côtés.
« Merci, » leur dit-il simplement. « Nous étudierons la question quand nous arriverons à cette partie du voyage. »
« C'est-à-dire peut-être dans un siècle standard à cette allure, » murmure Rétig.
« C'est possible, » fait De Soya.
« Sanglons-nous maintenant et filons d'ici. »
Il se translate hors du système. Toujours dans le même secteur, dans la banlieue préégyrienne de l'ancienne Terre, ils font le saut sur deux mondes à la terraformation poussée qui accomplissent leur chorégraphie complexe dans l'espace d'une demi-année-lumière qui sépare Epsilon Eridani d'Epsilon Indi. L'habitat expérimental eurasien Omicron 2 Epsilon 3 représente un courageux effort utopique pré-égyrien visant à une perfection quasiment impossible à réaliser dans les domaines de la terraformation et de la politique, principalement néo-marxiste, sur des mondes hostiles, en fuite devant des forces encore plus hostiles. Effort qui échoua piteusement. L'hégémonie remplaça les utopistes par des bases de la force spatiale et par des stations automatiques de ravitaillement en carburant, mais la quantité de vaisseaux d'ensemencement en route vers les confins, puis de vaisseaux de spin en transit dans la région de l'ancien voisinage, pendant les gires, conduisit à la terraformation totalement réussie de ces deux planètes sombres qui gravitaient entre le faible soleil Epsilon Eridani et l'encore plus faible étoile Epsilon Indi. Puis, la fameuse déconfiture de la flotte de Glennon Heights, c'est là la notoriété du système, en même temps qu'elle mettait l'accent sur son importance stratégique. La Pax reconstruisit les bases abandonnées de la Force et régénéra les systèmes de terraformation défaillants. L'exploration par De Soya de ces deux tronçons du fleuve se passe avec une rigueur et une sécheresse toute militaire. Chaque segment du Tétis à explorer est tellement entouré d'installations de défense qu'il apparaît très vite impossible que la fillette, et à plus forte raison son vaisseau, ait pu passer ici au cours des deux derniers mois sans être détecté aussitôt et mise en demeure de se poser. De Soya était déjà arrivé à cette conclusion d'après la connaissance qu'il avait du système d'Epsilon. Il a transité plusieurs fois ici au cours de ses voyages à destination du Grand Mur et au-delà. Mais il décide qu'il doit tout de même inspecter les portails en personne. Ils ont de la chance d'avoir trouvé un système avec une garnison cette fois-ci, car Rétig et Ki doivent être hospitalisés. Ingénieur et spécialiste ecclésiastique de la résurrection examine le Raphaël en cale sèche et constate qu'il y a de petites mais vitales erreurs dans le programme de la crèche automatique du vaisseau. Trois journées standards sont nécessaires pour effectuer les réparations. Quand il se translate hors du système, cette fois-ci,
avec une seule autre escale dans l'ancien voisinage, avant de gagner les régions post-égyriennes du Vieux-Retz, c'est dans l'espoir très ferme de voir leur santé, leurs tendances dépressives et leur instabilité émotionnelle s'améliorer si jamais ils doivent connaître un nouveau processus de renaissance.
Quelle est votre nouvelle destination ?
Demande le père Dimitrius, l'expert en résurrection qui les a aidés ces derniers jours. De Soya hésite une brève seconde avant de répondre. Mais sa mission ne risque guère d'être compromise s'il donne ce renseignement au vieux prêtre.
« Mare Infinitus, » répond-il. « Il s'agit d'une planète océanique située à 3 parsecs des confins et 2 années-lumière au-dessus du plan de... »«
Je vois, » fait le vieux prêtre. « J'ai tenu une mission là-bas il y a 30 ans, pour sevrer les pêcheurs indigènes de leur paganisme et leur montrer la lumière du Christ. »
Le prêtre aux cheveux blancs lève la main en un geste de bénédiction.
« Quoi que vous cherchiez, père capitaine de Soya, je prie sincèrement pour que vous le trouviez là-bas. »
De Soya est sur le point de quitter Mare Infinitus lorsque le plus pur des hasards lui livre la clé qu'il cherchait. C'est le 63e jour de leur quête, le 2e après leur résurrection en crèche dans la station orbitale de la Pax, et le début de ce qui aurait été normalement leur dernier sur ce monde. Un jeune homme bavard, le lieutenant Barin Alan Sproul, sert à De Soya d'officier de liaison avec le commandement de la flotte sur 70 au Fushi A. Comme tous les guides, il abreuve De Soya et ses hommes de détails techniques dont ils n'ont que faire, mais c'est un bon pilote d'orni et au-dessus de cet océan planétaire, à bord d'un engin volant qui ne lui est pas particulièrement familier, De Soya est content d'être passager plutôt que pilote. Il se détend pendant que Sproul les conduit vers le sud, loin de l'importante cité flottante de Sainte-Thérèse, dans les immensités désertes fréquentées uniquement par les pêcheurs, où les portails d'Istrance flottent encore.
« Pourquoi les portails d'Istrance sont-ils si éloignés l'un de l'autre sur cette planète ?» demande Grégorius.
« Il y a une explication !» fait le lieutenant Sproul.
De Soya capte le regard de son sergent. Grégorius ne sourit pratiquement jamais, à moins qu'un combat ne soit imminent. Mais le père capitaine a appris à reconnaître une certaine lueur dans l'œil du géant, qui est l'équivalent d'un accès d'hilarité.
L'hégémonie tenait à fixer ici ces portails du Tétis en plus de la sphère orbitale qui existait déjà et des petits relais d'Istrance disséminés un peu partout. Drôle d'idée, n'est-ce pas? Faire passer un tronçon de rivière au milieu d'un océan. Quoi qu'il en soit, il tenait à le placer devant le courant militoral, ce qui s'explique dans la mesure où les Léviathans et quelques-uns des spécimens de Kant, les plus intéressants, résident dans ces parages, pour que les touristes puissent les voir à l'occasion. Mais le problème n'est pas là.
De Soya tourne la tête vers l'endroit où le caporal qui sommeille, caressé par le chaud soleil qui pénètre par la bulle hublot de l'orni.
Le problème, reprend Sproul, c'est qu'il n'y a aucune structure permanente pour y fixer ces grands portails. « Vous comprendrez dans une minute, père capitaine, à quel point ils sont énormes. Il y a bien les anneaux de corail, mais ils ne sont rattachés à rien. Ce sont des formations flottantes. Quant aux îles de Varech Jaune, elles ne sont pas... Vous voyez ce que je veux dire. Vous posez le pied dessus et il passe à travers. Tenez, justement, regardez à tribord, père capitaine. C'est du Varech Jaune. On n'en voit pas tellement sous ces latitudes. Trop au sud. N'importe comment, la solution trouvée par les ingénieurs de la vieille hégémonie a consisté à stabiliser les portails à peu près de la même manière que nous, avec nos plateformes et nos cités depuis 5 siècles. C'est-à-dire en ménageant des fondations de 2 ou 3 centaines de brasses, d'où pendent de grosses ancres à lames au bout de très longs câbles. Le fond de l'océan ici est quelque chose d'assez problématique. Il est au moins à 10 000 brasses généralement. C'est là que vivent les grands-pères de nos cantes de surface comme les gueules de lampe. De vrais monstres, père capitaine, des kilomètres de long.
Lieutenant. Coupe de Soya. Je ne vois pas le rapport avec le fait que les portails soient si éloignés l'un de l'autre.
Le vrombissement aigu, presque dans l'ultrason des ailes de la libellule, menace d'endormir le père capitaine. Qui ronfle déjà, et Rétig a les yeux fermés et les pieds sur le dossier du siège devant lui. Le vol a été long et éprouvant. Sproul arbore un large sourire.
« J'y arrive, père capitaine, j'y arrive !» Voyez-vous, avec ces quilles lestées et 20 km de câbles à la traîne, nos cités et plateformes ne peuvent pas aller très loin, même à la saison des grandes marées. Mais les portails, ce n'est pas la même chose. Il y a pas mal d'activités volcaniques sous-marines sur Mare Inf. L'écologie des profondeurs est spéciale, croyez-moi. Quand un ver tubulaire rencontre un gigacanthe,
Il s'ensuit une bataille homérique, pour ça, oui. Donc, les ingénieurs du Vieux Red ont conçu ces portails de manière que leurs câbles et leurs quilles détectent sous eux les premiers signes d'activité volcanique et migrent aussitôt. C'est le mot qui me vient à l'esprit, père capitaine.
Si je comprends bien, fait De Soya avec patience, la distance entre les portails du Tétis a augmenté à cause de l'activité volcanique des fonds marins.
Tout juste, père capitaine!
Approuve le lieutenant Sproul avec un large sourire, qui semble exprimer à la fois son plaisir et son étonnement à l'idée qu'un officier de la flotte ait compris si vite.
« En voilà d'ailleurs un !»
ajoute-t-il avec un grand geste du bras en inclinant l'ornie pour descendre en spirale vers la surface. Il place l'engin volant en vol stationnaire à 5 mètres au-dessus de l'arche ancienne. 20 mètres plus bas, l'océan violet, agité, se brise contre le métal rouillé de la base. De Soya se frotte la joue. Comme ses hommes, il a du mal à résister plus longtemps à la fatigue. Il leur faudrait peut-être s'accorder quelques jours de plus entre la résurrection et la mort. « Peut-on voir l'autre portail maintenant ? » demande-t-il.
« Bien sûr !»
L'ornie bourdonne à quelques mètres de la crête des vagues en couvrant les 200 kilomètres qui le séparent de l'arche suivante. De Soya somnole à son tour. Quand il se réveille, légèrement secoué par le lieutenant, le second portail est visible sur la mer. L'après-midi est déjà avancé. Le soleil bas projette une ombre longue sur l'eau violette.
« Très bien, » fait De Soya. « Les radars de profondeur sont toujours en action. »«
Oui, père capitaine, »
répond le jeune pilote.
« Leur rayon d'opération a été élargi, mais je peux vous dire qu'ils n'ont rien vu d'autre jusqu'à présent que quelques voraces gueules de lampe. » Le genre de créature qui donne du fil à retordre aux fanas de la pêche sportive, croyez-moi.
C'est toute une industrie ici, j'ai l'impression, père capitaine.
Fait Grégorius de sa grosse voix derrière le siège du pilote.
C'est vrai, sergent.
Approuve Sproul en tordant son long cou pour mieux le regarder.
Avec la culture du Varech plus au sud, c'est notre meilleure source de devises.
De Soya indique une plateforme située à quelques kilomètres de là.
« Encore une station de ravitaillement en carburant » demande-t-il.
Le prêtre capitaine a passé une journée avec les commandants de l'APAX à prendre connaissance des rapports des petites stations comme celle-là, réparties tout autour de la planète. Aucune n'a signalé le moindre contact avec un vaisseau étranger, ni la présence de la fillette. Durant leur long voyage vers le sud en direction des portails, ils ont dépassé une bonne douzaine de ces plateformes.
« C'est exact !»
réponse Sproul.
Voulez-vous que je reste en vol stationnaire quelques minutes ou bien en avez-vous assez ?
De Soya observe le portail. Il se dresse à présent énorme au-dessus d'eux, tandis que l'ornie rase les flots.
Ça suffira comme ça, lieutenant,
déclare De Soya.
Vous pouvez retourner. Il y a un dîner officiel ce soir chez l'évêque Melandriano.
Les sourcils de Sproul se haussent en direction de ses cheveux coupés courts.
« À vos ordres, père capitaine »
dit-il. Ils virent et décrit un dernier cercle avant de mettre le cap au nord.
« On dirait que cette plateforme a été endommagée récemment. »
fait De Soya en se penchant sur sa droite pour regarder par la bulle du hublot.
« C'est vrai !»
réplique le lieutenant.
« J'ai un ami qui vient d'achever une période sur la plate, la station Militorale 326, ainsi qu'elle s'appelle officiellement, père capitaine. » Il m'a dit qu'un braconnier avait essayé de la faire sauter il y a quelques marées de cela.
« Sabotage ?»
demande De Soya en voyant s'éloigner la plateforme.
« Guérilla plutôt !»
fait le lieutenant.
« Ces braconniers sont des indigènes qui étaient là bien avant la Pax. C'est pourquoi il y a des soldats sur chaque plate et des patrouilles régulières de la marine pendant la saison de pêche. Les bateaux ne sortent que par convoi pour prévenir les attaques des braconniers. Vous les avez vus amarrer à la station. Il faut dire que la pêche va bientôt commencer. Ils seront escortés par des vaisseaux de la Pax. Le gueule de lampe remonte des profondeurs lorsque les lunes sont en conjonction. Vous avez vu la grosse levée, père capitaine. Les bateaux de pêche enregistrés ont de gros projecteurs qu'ils allument quand les lunes sont couchées pour attirer les mégacantes. Mais les braconniers ne se privent pas de le faire aussi.
De Soya jette un coup d'œil aux étendues désertes d'océan entre l'ornie et l'horizon septentrional.
Il ne doit pas y avoir beaucoup d'endroits où les rebelles peuvent se cacher,
dit-il.
« Non, père capitaine. Ah, c'est-à-dire oui. Ils ont des barques de pêche camouflées de manière à ressembler à des bancs de varech jaune et des submersibles. Je ne sais pas si vous allez me croire, mais ils ont même un gros sous-marin pour la récolte, déguisé en gueule de lampe.
Et vous dites que cette plateforme a été endommagée lors d'une attaque de braconniers ?
Demande de Soya. Il parle surtout à présent pour demeurer éveillé. Le bourdonnement de leur nid est soporifique.
Tout juste, père capitaine, répond Sproul. Il y a environ 8 grandes marées. C'est l'œuvre d'un seul braconnier, ce qui est tout à fait inhabituel, car ils viennent généralement en groupe. Il a fait sauter plusieurs glisseurs et ornis. C'est une tactique courante, bien qu'il s'attaque le plus souvent au bateau, de préférence.
Excusez-moi, lieutenant, mais vous dites que cela s'est passé il y a 8 grandes marées. Pourriez-vous traduire cela en standard ?
Sproul se mordit la lèvre.
Oui, père capitaine. Désolé, j'ai grandi sur Marée Inf. Et cela fait environ 8 mois standard.
Le braconnier a été arrêté ?
Oui, père capitaine,
répond Sproul avec son sourire de gamin.
Il y a même une histoire que l'on raconte.
Il jette un coup d'œil à De Soya pour voir s'il peut continuer.
Pour parler bref, père capitaine, ce braconnier s'est fait appréhender d'abord, puis il a fait exploser ses charges avant d'essayer de s'enfuir. C'est alors que les gardes lui ont tiré dessus et l'ont tué.
De Soya hoche la tête et ferme les yeux. La veille, il a passé en revue une centaine de rapports sur des incidents avec les braconniers qui ont eu lieu au cours de ces 2 derniers mois standards. Faire sauter les plateformes et tirer sur les braconniers, ce sont, apparemment, les sports locaux les plus populaires sur Mare Infinitus, après la pêche.
« Le plus drôle à propos de ce braconnier !»
fait le lieutenant pour finir son histoire.
« C'est la manière dont il s'est échappé, sur une espèce de vieux tapis volant datant de l'époque de l'hégémonie. »
De Soya dresse aussitôt l'oreille. Il ne sommeille plus. Il jette un coup d'œil au sergent et à ses hommes. Tous les trois se sont redressés et ont les yeux fixés sur lui.
« Faites demi-tour !» ordonne le père capitaine. « Ramenez-nous jusqu'à cette plateforme. »
« Et ensuite, que s'est-il passé ?» demande De Soya pour la 5e fois.
Son garde suisse et lui se trouvent dans le bureau du directeur de la plateforme, situé au plus haut point de celle-ci, juste sous l'antenne radar. Par la longue baie vitrée, le spectacle incroyable du lever des trois lunes s'offre à eux. Le directeur, un capitaine de la Pax appartenant au commandement océanique, nommé C. Dobbs Powell, est un gros homme rubicon qui transpire allègrement dans ses vêtements.
Quand il est apparu que cet homme n'appartenait à aucun des groupes de pêcheurs que nous avions cette nuit-là à bord, le lieutenant Bellius l'a pris à part pour procéder à son interrogatoire. C'est la procédure standard, père capitaine.
De Soya le fixe longuement des yeux avant de demander.
Et ensuite ?
Le directeur se passe la langue sur la lèvre.
L'homme a réussi à s'échapper provisoirement, père capitaine. Il y a eu un affrontement sur la passerelle et il a poussé le lieutenant Bellius à la mer.
On l'a retrouvé ?
Non, père capitaine. Il a dû se noyer. Ou bien... Il y a pas mal de requins arc-en-ciel qui rôdent dans les parages.
Décrivez-moi l'homme que vous déteniez avant de le laisser échapper.
Demande De Soya en insistant sur le mot « laisser ».
Jeune, père capitaine, 25 ans standard environ, et assez grand, plutôt costaud.
Vous l'avez vu de vos yeux ?
Oui, père capitaine. J'étais sur la passerelle avec le lieutenant Bellius et le lancier marin Ament lorsque cet individu a déclenché la bagarre et poussé Bellius par-dessus bord.
Le lancier et vous l'avez alors laissé s'échapper. Fait De Soya d'une voix sans intonation. Vous étiez armés tous les deux, et cet homme avait des menottes, c'est bien cela.
Oui, père capitaine,
répond Paul en s'épongeant le front avec son mouchoir mouillé.
Avez-vous remarqué quoi que ce soit d'anormal concernant ce jeune homme ? Quelque chose que vous auriez omis de signaler dans votre très succinct rapport adressé au commandement ?
Le directeur range son mouchoir, puis le ressort aussitôt pour le passer sur son front.
Non, père capitaine. C'est-à-dire que, pendant la bagarre, le vêtement du jeune homme s'est déchiré sur le devant, et j'ai pu remarquer qu'il n'était pas comme vous et moi, père capitaine.
De Soya hausse un sourcil.
Je veux dire par là qu'il n'appartenait pas à la croix,
s'empresse d'ajouter Paul.
Pas de cruciforme sur la poitrine. Naturellement, cela ne m'a pas surpris sur le moment. La plupart de ces braconniers indigènes n'ont jamais été baptisés. Ils ne braconneraient pas s'ils l'avaient été, après tout, n'est-ce pas ?
De Soya ignore cette dernière question. Il se rapproche du capitaine en sueur pour lui demander.
Le prisonnier a donc sauté de la passerelle sur le pont inférieur pour s'enfuir par là. C'est bien ça ?
Pas tout à fait, père capitaine. Il ne s'est pas enfui tout de suite. Il a d'abord sorti ce truc volant qu'il avait dû cacher là. Entre-temps, naturellement, j'avais donné l'alarme et tous mes hommes avaient gagné leur poste en courant, comme ils sont entraînés à le faire.
Mais cela n'a pas empêché votre braconnier de monter sur son engin et de s'éloigner dans les airs.
C'est cela,
fait le directeur de plateforme en épongeant de nouveau son front moite. Visiblement, il est en train de songer à sa carrière future qui risque de se terminer prématurément.
Mais cela n'a pas duré longtemps. Nous l'avons immédiatement repéré sur notre radar, puis à l'aide de nos lunettes de vision nocturne. Ce tapis volait vite, mais lorsque nous avons ouvert le feu, il est revenu vers la plateforme.
À quelle altitude volait-il, capitaine Paul ?
Quelle altitude ?
Répète le directeur en plissant son front mouillé.
Environ 25 mètres de la surface, je pense. Peut-être 30. À peu près à la hauteur de notre pont principal. Il revenait droit sur nous, comme s'il avait l'intention de nous bombarder. Et c'est ce qu'il a fait dans un sens. C'est-à-dire que les charges explosives qu'il avait préparées ont sauté à ce moment-là. Ça m'a foutu une trouille de tous les diables. Pardonnez-moi, père capitaine.
Poursuivez, lui dit De Soya.
Il se tourne vers Grégorius. Le géant est en position de repos réglementaire derrière le directeur. D'après son expression, il n'attend qu'un signal pour ceinturer le gros homme en sueur.
L'explosion a été spectaculaire, reprend ce dernier. Les équipes de pompiers ont aussitôt couru éteindre les foyers d'incendie, mais le lancier marin Ament et moi, avec quelques hommes, nous sommes restés ici, à notre poste, sur la passerelle.
Très louable de votre part,
murmure De Soya d'une voix où perce l'ironie.
Continuez, je vous prie.
C'est à peu près tout, père capitaine,
fait Paul d'une voix piteuse.
Vous avez donné l'ordre de tirer sur le fugitif.
Oui, père capitaine.
Et toutes les sentinelles ont tiré en même temps, à votre commandement.
C'est cela,
fait le directeur, le regard vitreux de concentration.
Je pense qu'ils ont tous tiré. Ils étaient 6, en plus d'Ament et de moi-même.
Et vous avez tiré aussi ?
Oui. La station était attaquée. Le pont d'envol était en flammes, et ce terroriste fonçait sur nous pour nous bombarder avec je ne sais quoi.
De Soya hoche la tête comme s'il n'était pas tout à fait convaincu.
Avez-vous aperçu quelque chose ou quelqu'un d'autre que ce jeune homme sur le tapis volant ?
Non, mais il faisait noir.
De Soya regarde les trois lunes par la baie vitrée. Une forte lumière orangée pénètre jusqu'à eux.
Les lunes étaient hautes cette nuit-là, capitaine ?
Demande-t-il. Paul s'humecte de nouveau les lèvres comme s'il s'apprêtait à mentir. Il sait que De Soya et ses hommes ont interrogé le lancier marin Ament et les autres, et De Soya sait qu'il le sait.
« Elle venait de se lever ?»
bafouille-t-il.
« La lumière était donc comparable à celle-ci. »«
Oui. »
« Avez-vous remarqué quelqu'un ou quelque chose d'autre sur cet engin volant, capitaine ? Un paquetage ? Un sac à dos ? Un objet ressemblant à une bombe ?»«
Non !»
répond Paul, dont la peur laisse à présent transparaître une certaine fureur.
« Il n'a fallu qu'une très faible quantité d'explosifs pour faire sauter nos glisseurs et nos trois ornilles, père capitaine !»«
C'est vrai !»
acquiesce De Soya. Il s'avance vers la baie brillamment éclairée en ajoutant.
Vos 7 sentinelles, en comptant le lancier marin Ament, étaient toutes équipées de pistolets à fléchettes, capitaine.
Oui.
Et vous en aviez un aussi, n'est-ce pas ?
Oui.
Cela représente beaucoup de fléchettes. Ont-elles toutes atteint leur but ?
Paul hésite un instant avant de répondre, puis hausse les épaules.
La plupart, oui, je pense.
Et vous avez pu voir le résultat ? Demande De Soya d'une voix douce.
Le salopard a été mis en pièces, père capitaine !
Éclate Paul, dont la fureur l'emporte un instant sur la peur.
Je l'ai vu voler en éclats comme une fiente de mouette dans un ventilateur, père capitaine. Puis il est tombé comme une pierre, ou plutôt non. Il a glissé en arrière de son stupide tapis comme s'il était tiré par un câble. Il a touché la mer à côté du pylonel 3. Le requin arc-en-ciel était sur lui 10 secondes plus tard.
Vous n'avez donc pas retrouvé son corps. Paul lui lance un regard presque défiant.
Mais si, père capitaine, nous l'avons retrouvé. J'ai donné l'ordre à Ament et Kilmer de récupérer ses restes avec des gaffes, des crochets et une épuisette. Nous avions maîtrisé les foyers d'incendie et la plateforme ne courait plus aucun danger.
À mesure qu'il parle, le capitaine Paul reprend de plus en plus d'assurance. « Et où se trouvent ces restes à présent ?» demande calmement De Soya. Le directeur joint les bouts de ses gros doigts qui ne tremblent presque plus.
Nous les avons immergés le lendemain, du pont inférieur. Cela a attiré tout un banc de requins arc-en-ciel, et nous en avons tué quelques-uns pour le repas du soir.
Vous avez l'assurance que ces restes appartenaient bien au suspect en question. Les petits yeux ronds de Paul deviennent encore plus petits tandis qu'il se tourne vers De Soya pour répondre
« Oui, c'était bien ces restes, ceux d'un vulgaire braconnier. Ce genre de truc arrive tout le temps sur le grand violet, père capitaine. Il ne faut pas s'étonner.
Et il vous arrive souvent de tirer sur des braconniers qui volent au-dessus du grand violet sur d'antiques tapis volants EM, capitaine Paul ? Le visage du directeur de la plateforme se fige.
Ce truc-là, c'était ça ?
Vous n'en avez pas parlé dans votre rapport, capitaine. Paul hausse les épaules.
Ça ne me semblait pas très important.
De Soya hoche la tête. Et vous dites maintenant que ce truc-là a continué de voler tout seul. Qu'il est passé au-dessus du pont et de la passerelle pour disparaître au-dessus de la mer sans personne dessus.
Oui,
fait le capitaine Paul en se redressant dans son siège, aussi digne que possible dans son uniforme froissé. De Soya pivote brusquement vers lui. Le lancier marin Ament ne donne pas la même version des faits, capitaine. D'après lui, le tapis a été récupéré puis désactivé. La dernière fois qu'il a été vu, il se trouvait en votre possession, n'est-ce pas ?
C'est faux !
Proteste le directeur en regardant Gregorius, puis Sproul, puis Key, puis Rettig, puis, de nouveau, De Soya.
Je ne l'ai jamais revu après son passage au-dessus de la plateforme. Ament est un foutu menteur.
De Soya fait un signe de tête au sergent Gregorius. Puis il s'adresse à Paul sans le regarder. Ce tapis était une antiquité, en parfait état de marche. Ça vaut pas mal d'argent, même sur Mare Infinitus, n'est-ce pas, capitaine ?
Je l'ignore,
réussit à articuler Paul sans quitter Gregorius des yeux. Le sergent s'est avancé jusqu'à l'armoire privée du directeur. Elle est en acier et cadenassée.
« Je ne savais même pas ce que c'était que ce foutu machin !»
ajoute Paul. De Soya se tient maintenant devant la baie vitrée. La plus grosse lune remplit le ciel à l'est. L'arche d'Istrance se profile contre son orbe. « Ça s'appelle un tapis Hawking, » murmure-t-il d'une voix à peine audible. « Dans une certaine vallée des tombeaux du temps, cela aurait laissé une signature radar caractéristique. » Il fait un signe de tête au sergent Gregorius. Celui-ci enfonce la porte de l'armoire métallique d'un seul coup de gantelet. Il passe la main à l'intérieur, écarte des boîtes, des piles de papier et des liasses de billets, pour la ressortir avec le tapis soigneusement plié qu'il pose sur la table du directeur. Arrêtez cet homme et emmenez-le hors de ma vue, dit lentement le père capitaine De Soya. Le lieutenant Sproul et le caporal Key entraînent le directeur dans le couloir malgré ses protestations. De Soya et Gregorius déroulent le tapis Hawking sur la longue table. Les antiques motifs de vol jettent des reflets d'or à la lueur des lunes. De Soya passe la main sur les franges à l'avant du tapis. Il touche les endroits où les fléchettes ont déchiré le tissu. il y a du sang partout. Les dessins en sont tachés ainsi que les monofilaments supraconducteurs. Des lambeaux de ce qui pourrait être de la chair humaine sont pris dans les franges de l'arrière du tapis. De Soya se tourne vers Grégorius. Avez-vous déjà lu le long poème que l'on appelle les Cantos, sergent ?
Les Cantos ? Non, jamais. Je ne suis pas tellement porté sur la lecture. De plus, il me semble qu'il figure dans la liste des ouvrages interdits. Ou est-ce que je me trompe ?
Vous avez tout à fait raison, sergent. Le père capitaine s'éloigne du tapis ensanglanté et lève les yeux vers les lunes et l'arche d'Istrance qui se profile contre la plus grosse. C'est un morceau du puzzle, se dit-il. Et quand il sera au complet, je t'aurai, ma petite fille. Les Cantos font bien partie de la liste interdite, sergent, murmure-t-il. Il fait brusquement volte-face et se dirige vers la porte en faisant signe à Rétig de rouler le tapis et de l'emmener avec lui.
« Venez !»
dit-il avec plus d'énergie dans sa voix qu'il n'en a eu depuis plusieurs semaines.
« Nous avons du pain sur la planche !»